Bien, chers amis, nous allons tout de suite ouvrir le livre de la Genèse au chapitre 12. Nous lirons ce chapitre 12 dans son ensemble, c'est-à-dire les 20 versets de Genèse 12. Je lis au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Et ils le tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita Abraham avec bonté à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Un court texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, 4 versets, généralement bien connus, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4, qui conclut un long chapitre, la galerie de portraits des héros de la foi. Chapitre 12, verset 1er, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, la course qui nous est ouverte, détournant les regards sur Jésus qui suscite la foi, qui ouvre le chemin de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, roi. Méprisée l'ignominie, il s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez attentivement, en effet, celui qui a enduré contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Notre réflexion constitue donc la seconde étape d'un programme que nous avons donc commencé à développer ensemble il y a un an. Quatre premières études sur les quatre des six caractéristiques fondamentales de la foi. Un bon nombre d'entre vous étaient présents à ces rencontres et peut-être se souviennent-ils quelque peu de ces quatre premières grandes caractéristiques. Alors vous allez peut-être m'aider, nous ne voulons pas beaucoup nous appesantir sur ces quatre caractéristiques parce que nous avons beaucoup de champs à parcourir d'ici dimanche après-midi, mais simplement, brièvement, nous souvenir au moins des titres de ces quatre caractéristiques. Quelle était, à la lumière, bien entendu, de Genèse chapitre 12 et des tout premiers versets de ce chapitre, qui constitue aussi le début de l'histoire du Père des croyants, quelle était, d'après vous, la première de ces grandes caractéristiques? Certains ont leur note sous le nez, sans doute aussi, ça peut les aider quelque peu. Alors, quelle est la première caractéristique? Qui va m'aider? Comment est-ce que nous allons l'exprimer? Alors, ça, c'est une des caractéristiques. La séparation, elle frappe aux yeux. C'est pour cela qu'on est tenté de la donner en premier lieu. Mais la première est d'emblée, là, tout à fait au début de notre chapitre 12. L'Éternel dit, n'est-ce pas? Donc, la première caractéristique de la foi, selon le cœur de Dieu, non pas de la pensée humaine concernant la foi, c'est qu'elle est suscitée par le Dieu vivant qui s'adresse au cœur de l'homme de manière personnelle. L'Éternel avait dit. Nous avons évoqué le choix de Dieu, le libre choix de Dieu, le choix de sa grâce parfaite et la manière dont il nous donne en quelque sorte une assise pour que nous exercions notre foi qui existe déjà dans le domaine naturel, que nous l'exercions aussi de la bonne manière dans le domaine spirituel. Et pour que nous puissions exercer notre foi dans le domaine spirituel, il importe qu'elle ait une bonne assise. C'est l'objet de la foi qui est important. Et Dieu nous a fait don de la foi parce qu'il nous a fait don de l'objet de la foi, de celui sur lequel nous pouvons nous appuyer pour construire notre vie. Et cet objet de notre foi, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair. C'était là ce que nous avons développé en premier lieu. Et puis, deuxièmement, et ceci nous est dit au verset 4, deuxième grande caractéristique fondamentale de la foi, verset 4, d'après vous, oui, j'entends le mot, oui, l'obéissance. La foi est une obéissance du cœur, je dis bien du cœur. La foi part du dedans, pour s'exercer vers le dehors. Ce n'est pas quelque chose qu'on enfile comme on enfile un vêtement. Il faut que le cœur soit touché, il faut que le cœur soit changé, il faut que le cœur soit habité pour que la foi soit en état de fonctionner. Une obéissance du cœur, des sources de la vie, du cœur qui a été changé. La conscience a été purifiée par le sang de Jésus, le cœur a été transformé, il est habité par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va produire dans nos cœurs cette obéissance de la foi. La foi est la main du cœur qui saisit les réalités de l'esprit. La main du cœur, n'est-ce pas ? Ce qui signifie précisément activité. Troisièmement, et cela nous a été soufflé en premier lieu, parce qu'effectivement c'est très très frappant, la troisième caractéristique fondamentale de la foi, c'est qu'elle exige une séparation. Mais nous avons souligné qu'elle exige une séparation pour Dieu. Ce n'est pas d'abord une séparation contre, c'est d'abord une séparation pour. C'est parce qu'il y a un appel, c'est parce qu'il y a une attirance, c'est parce que Dieu nous courtise en Jésus-Christ, parce qu'il nous aime en Jésus-Christ, parce qu'il suscite dans nos cœurs la foi, que nous sommes rendus capables de nous séparer. Le moteur de la séparation, c'est lui, c'est pour lui que je me sépare. Et bien entendu, si je me sépare pour lui, cela sous-entend que je dois prendre position par rapport à un certain nombre de situations, de faits, de circonstances, de personnes, etc. Enfin, quatrièmement, nous l'avons longuement développé dans notre dernière rencontre, début décembre, quelle est la quatrième caractéristique fondamentale de la foi ? Quel est son moteur ? Comment est-ce que Abraham a été rendu capable de partir ? Parce qu'il avait reçu des promesses. Il avait reçu des promesses. Des promesses de Dieu. La foi véritable s'appuie sur les promesses de Dieu. Dieu fait des promesses. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction, ou c'est même un impératif. Deviens, sois bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, au pluriel, et je maudirai en réalité celui qui te maudira. Dieu préfère bénir. Dieu préfère bénir. Dieu n'aime pas maudire. Il le fait. Mais il préfère bénir plutôt que maudire. Et le livre de la Genèse, il faut nous en souvenir, et d'une manière toute particulière, le livre de la bénédiction. 84 fois dans le livre de la Genèse, vous avez les expressions bénir et bénédiction contre 11 fois maudire et malédiction. Il y a là toute une étude à faire sur ce que Dieu appelle bénédiction et malédiction. C'est important de le savoir, puisque la première épître de Pierre nous indique que nous sommes notamment appelés à bénir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le livre de la Genèse peut nous aider à le comprendre. Il reste deux caractéristiques fondamentales de la foi. Ces deux caractéristiques ne sont pas directement contenues dans les versets premiers et suivants du chapitre 12. Ils y sont, mais disons qu'ils n'y sont pas tout à fait en toutes lettres. Ils apparaissent un petit peu entre les lignes. Vous verrez pourquoi je dis cela de cette manière. Et nous n'allons pas, ce soir, nous arrêter sur ces deux caractéristiques. Rassurez-vous, nous les examinerons, mais nous allons les examiner d'une autre manière. Ces deux grandes caractéristiques fondamentales de la foi d'Abraham et de la foi du croyant, nous allons les insérer dans la suite de notre réflexion qui se voudra très pratique sur la marche d'Abraham par la foi. Nous allons, jusqu'à dimanche après-midi, maintenant, observer Abraham dans sa découverte du territoire promis et dans son attitude vis-à-vis des situations, vis-à-vis des circonstances, vis-à-vis des personnes. Et nous allons donc jeter un pont entre sa foi et la nôtre, de la foi d'Abraham à la nôtre. Et c'est à l'intérieur de cette réflexion que, ici et là, nous ferons allusion à ces deux autres caractéristiques fondamentales de la foi. Nous avons dit, donc, je le répète, que la foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Et j'aimerais faire une remarque ici qui va être très intéressante et que nous allons voir garder en pensée tout au long de notre week-end. Quand on lit notamment les 9 premiers versets du chapitre 12, on se rend compte que la vie nouvelle du père des croyants, d'Abraham, se caractérise par trois éléments essentiels qui font allusion aux trois dimensions de base de la vie de la foi. Il y a trois dimensions importantes dans la vie pratique de la foi que nous ne devons jamais perdre de vue. Ce que j'appelle le trépied de la vie chrétienne, ou même le trépied de la foi, simplement. Et c'est important d'évoquer un trépied. Parce que vous savez qu'un trépied dont un pied manque, d'une part n'est plus un trépied, mais d'autre part n'est bon à rien. Et c'est surtout là que je voulais en venir. C'est-à-dire que ces trois éléments du trépied de la foi d'Abraham qui doivent se retrouver dans notre vie sont absolument indissociables. Si un des pieds tombe, il va y avoir de terribles problèmes dans notre vie. Quels sont ces trois éléments essentiels, indissociables de la vie de la foi? Eh bien, tout d'abord, la promesse. La promesse est constamment répété de la part de Dieu tout au long de la vie pratique d'Abraham. Nous y reviendrons, mais vous remarquez qu'au verset 7, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Elle est là. Et toute l'histoire d'Abraham, jusqu'au chapitre 22, notamment, va être comme ça jalonné de ce rappel de la promesse de Dieu, non seulement même du rappel de la promesse de Dieu, mais cette promesse de Dieu va devenir de plus en plus consistante. Elle est très générale dans ces premiers versets. Elle est quelque peu brumeuse encore. Mais peu à peu, Dieu va préciser, au fur et à mesure que la foi d'Abraham va se développer et va être capable de supporter les révélations de Dieu, Dieu va préciser et étoffer en quelque sorte le contenu de sa promesse. Cette promesse va aider Abraham à ne pas s'installer dans le présent, simplement, dans une sorte de présent statique. C'est la promesse de Dieu qui crée une sorte de suspense dans sa vie. Au fur et à mesure que Abraham grandit dans sa foi et que Dieu lui apporte quelque chose de nouveau comme promesse, Abraham peut se dire, mais quelle va être la prochaine étape? Qu'est-ce que Dieu va encore me révéler un peu plus tard? Vous comprenez? Il y a dans la promesse un petit peu en même temps une sorte de carotte spirituel pour aider Abraham dans sa croissance. D'ailleurs, nous aurions pu le prendre sous un aspect différent en disant que le Dieu qui peu à peu précise sa promesse à Abraham est aussi le Dieu qui progressivement va se révéler à Abraham sous des noms nouveaux. Il est l'Éternel, ici dans ce texte. Mais un peu plus loin, au chapitre 14, au verset 19, il est dit, au verset 19, donc, par Melchisédek, ce personnage assez mystérieux, « béni soit Abram par le Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, le Dieu qui est vraiment Dieu, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et ça, ça va ouvrir les yeux d'Abraham. Quand Abraham va entendre Melchisédek prononcer ces mots, ce sera la première fois qu'il recevra la révélation d'un nom nouveau de Dieu. Et Dieu va se révéler de cette manière à lui à cause d'un contexte que je ne vais pas développer maintenant. Et ce qui est merveilleux, c'est que immédiatement, Abraham va utiliser cette révélation du nom nouveau et va l'appliquer à sa vie, puisque au verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Dès que Abraham découvre quelque chose de nouveau sur la personne de Dieu, il l'applique aussitôt à sa vie. Et cela continue de cette manière dans d'autres textes encore, chapitre 17. Verset 1er, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai, je suis le Dieu parfaitement suffisant, je suis le Dieu de la fécondité, celui qui permet à notre vie de porter du fruit. » Ça aussi, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour Abraham. Voyez qu'au fur et à mesure qu'Abraham grandit dans sa marche avec Dieu, Dieu lui fait des promesses et Dieu se révèle à lui sous des appellations nouvelles. La foi, la promesse va aussi indiquer à Abraham qu'il est dans la volonté de Dieu. Elle va l'aider à ne pas se laisser impressionner par ce qu'il voit. Nous allons y revenir assez rapidement. Elle va soutenir et nourrir sa foi quotidienne, elle va l'aider à tenir bon, malgré les évidences contraires. Et si Dieu vous a fait des promesses, dont vous êtes absolument certain parce qu'il ne vous les a pas faites une fois, deux fois, mais il a appuyé sur ses promesses pour que vous ayez la certitude qu'il vous disait bien quelque chose à vous personnellement, comme il est capable de le faire, vous savez combien, lorsque ça va mal, dans notre vie, parfois, nous éprouvons le besoin de brandir au regard de Dieu ces promesses qu'il nous a faites. Qu'est-ce que la promesse dans notre vie? Eh bien, si vous voulez, c'est le rôle de la parole de Dieu, le rôle de la Bible. Le premier élément du trépied d'une vie chrétienne normale, c'est la parole de Dieu. C'est ce contact permanent avec la parole vivante d'un Dieu qui se révèle à moi. Fondamental, l'histoire du Père des croyants est là pour nous révéler l'importance de la place que la parole de Dieu doit occuper dans ma vie personnelle. Deuxième élément de ce trépied, l'autel. L'autel, parce que lorsque Dieu se révèle, lorsque Dieu parle, Abraham éprouve le besoin de dresser des autels. Il invoque le nom de Dieu. L'autel. L'adoration, la reconnaissance, l'action de grâce. Abraham est un homme de prière. C'est un homme qui vit dans le sanctuaire. Et sa prière et son adoration, son action de grâce, baignent dans la foi. Parce que si Abraham dresse des autels, c'est aussi une manière d'affirmer ce territoire sur lequel je viens de te dresser un autel, ô Éternel, c'est un territoire qui t'appartient. Il est à toi. Même si je suis en terre étrangère, même si je suis environné de Cananéens qui rendent leur culte à toutes sortes de divinités champêtres, climatiques. Ce territoire, je le revendique comme étant déjà le tien. Et je t'adore, Seigneur, parce que je crois de cette manière à l'accomplissement de tes promesses, même si je n'en vois pas encore la réalisation. L'autel, dans ma vie, c'est la prière. C'est la prière. Non seulement l'intercession, non seulement les requêtes, mais aussi la prière d'adoration. Et vous savez que Dieu aime d'une manière toute particulière l'adoration de ses enfants. Et je crois que là aussi, il faut dire au passage que notre vie de prière, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit ecclésiale, communautaire, et trop souvent, une vie de prière centrée sur la requête, centrée sur nous-mêmes, sur nos besoins, accessoirement ensuite sur les besoins des autres, mais pas assez centrée sur la personne de Dieu. Sur l'adoration. Je suis persuadé que nous parlons beaucoup trop à Dieu de nos misères et pas assez de sa gloire. Nous devrions réfléchir et essayer de voir la place que l'adoration occupe dans la parole de Dieu. Abraham était un homme qui savait adorer. Oh, l'adoration implique beaucoup de choses. Je ne sais pas si nous le verrons dans le cadre de ce week-end, mais dans Genèse 22, à un moment donné, Abraham se tourne vers les serviteurs qui les avaient accompagnés, Isaac et lui, tout à bout du chemin, et il leur dit, écoutez, vous restez ici. Nous allons adorer. Et adorer, pour Abraham, c'était placer son fils unique, celui qu'il aimait sur l'autel. C'était donner à Dieu, perdre pour Dieu, quelqu'un qui avait une valeur infinie, quelqu'un qui lui était extrêmement cher. Mais il estimait que Dieu méritait bien de recevoir un tel sacrifice, alors qu'il le connaissait si peu par rapport à notre connaissance de Dieu, avec la révélation complète des Écritures que nous avons aujourd'hui. Deuxième élément donc de ce trépied, l'autel. La vie de prière, personnelle et ecclésiale. Troisième élément du trépied, l'attente. L'attente, T-E-N-T-E, bien entendu. Elle est là, elle est partout. Il nous est dit qu'il dressa ses tentes. Et on voit que il avance de cette manière parce que l'attente exprime la disponibilité d'Abraham. La mobilité d'Abraham, l'obéissance au Saint-Esprit. Et vous avez dans les versets 6 et suivants plusieurs verbes qui sont des verbes de mouvement. Abraham parcourut, il se transporta, il continua ses marches en s'avançant. Et il y a là une invitation à ne pas s'enraciner, à tenir, comme nous le verrons, légèrement les biens de ce monde pour pouvoir les lâcher sans difficulté. Être un disciple de Jésus-Christ disponible. Savez-vous que le verbe marcher revient plus de 200 fois dans les Écritures? Et si on ajoute à ce verbe marcher les verbes suivre, aller, courir, monter, arriver, partir, il faut tripler ce nombre. Nous sommes étrangers et voyageurs. Nous sommes en chemin. Nous sommes appelés à avancer, à toujours marcher. Le peuple de Dieu doit toujours être un peuple en marche. Et j'aime le blason de l'Australie, puisque sur ce blason on peut voir deux animaux. D'une part, un émeu, un très gros oiseau, mais qui ne peut pas voler, et un kangourou que nous connaissons mieux. Et il semble que ces deux animaux aient été choisis par les Australiens à cause d'une caractéristique qu'ils ont en commun. C'est qu'aucun de ces deux animaux ne peut reculer. L'émeu ne peut pas reculer parce qu'il a un gros pied à trois doigts et s'il essaie de reculer, il tombe à coup sûr. Quant au kangourou, c'est sa grosse queue qui l'empêche de faire marche arrière. Nous devons être sur ce plan des Australiens, n'est-ce pas? Marcher, 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 avancer. Aller toujours de l'avant. Pour cela, il nous faut être disponible. Il faut aussi choisir l'attente. L'attente, pour nous, c'est synonyme de consécration, de disponibilité, d'obéissance. Trois éléments du trépied de la vie chrétienne. La promesse, l'attente et l'autel. Il faut continuellement vérifier si ces trois éléments fonctionnent toujours bien dans notre vie personnelle. Et je l'ai dit tout à l'heure, si l'un de ces trois éléments est en défaillance, si un pied tombe, le trépied n'a plus sa vocation. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, si vous lisez la Bible sans esprit d'obéissance, vous tomberez dans une sorte d'intellectualisme religieux. Si vous agissez sans puiser dans la Bible et prier, vous tomberez très rapidement dans un activisme stérile. Si vous priez sans vous inspirer des Écritures et sans agir, vous allez tomber dans un mysticisme dangereux. Et ce que nous voyons là est très important, parce que nous allons nous rendre compte, mais cela vous pourrez aussi le découvrir vous-même, en allant plus loin dans l'étude de l'histoire d'Abraham, c'est que lorsque Abraham sort du plan de Dieu, le trépied disparaît. Plus de promesses, plus d'autel, plus de temps. Ainsi, cherchez dans les versets 10 à 20 l'attente, l'autel et la promesse, ils n'y sont plus. Par contre, comme nous le verrons d'ailleurs, quand au chapitre 13, Abraham réintègre le plan de Dieu, le trépied réapparaît. Les trois éléments sont là de nouveau. Lorsqu'au chapitre 16, Abraham connaîtra, je dirais, sa chute la plus grave dans ce parcours de la foi, au niveau de la naissance d'Ismaël, il ne sera pas question non plus de tente, de promesse et d'autel. Dieu nous a donc donné cette histoire d'Abraham aussi pour nous rendre attentifs à l'importance de ce trépied d'une vie chrétienne normale. Et c'est avec cette toile de fond, en quelque sorte, que nous allons maintenant considérer le premier test de la foi d'Abraham. Je vous ai dit, il y a 4 semaines, dans l'introduction générale, qu'une des particularités du cheminement de la foi d'Abraham dans les Écritures, c'est qu'on pouvait repérer 7 grands tests de la foi d'Abraham. 7 chiffres de plénitude. Comme si Dieu avait voulu nous donner un échantillonnage très représentatif des diverses situations de foi et des preuves de la foi dans lesquelles nous pouvons nous trouver à divers moments de notre vie. Et ici, nous sommes en face du premier test de la foi. Une foi toute neuve, une foi qui doit se développer, qui doit être purifiée, éprouvée, taillée, pour bien s'enraciner en Dieu. Il y a eu rupture, il y a eu obéissance, et la découverte commence. Elle est aussi l'entrée dans un combat. Et Satan va tout faire pour déloger Abraham du pays de la foi et de la promesse. Satan sait que la foi d'Abraham dans Genèse 12 est une foi toute neuve, que c'est une plante bien fragile. Et heureusement, Dieu le sait aussi. Quand on a le privilège de voir quelqu'un se tourner vers Jésus-Christ, on tremble, on fait confiance, mais en même temps, on réalise toute la fragilité de cette toute jeune plante qui vient à peine de percer la croûte, n'est-ce pas ? Comme dans un pot, quand subitement on voit là les premières pousses, ça semble tellement fragile. On se dit, mais il faut si peu de choses. Heureusement, Dieu le sait aussi. Et Dieu poursuit un objectif dès le début de la vie de la foi. Il veut nous conduire à une foi de plus en plus totale en lui seul. Il veut aussi nous conduire dans un repos de plus en plus complet en lui. Il veut nous amener à trouver notre pleine satisfaction en lui seul. Alors il nous donne des vitamines pour cela. Mais ce sont des vitamines qui peuvent apparaître bien amères, parce que les vitamines de la foi, ce sont les situations, d'abord, les situations d'épreuve, de mise à l'épreuve de la foi. Et il y a dans les Écritures des textes que certains d'entre vous connaissent fort bien, d'autres peut-être moins. Jacques, chapitre 1er, par exemple, dans les versets 2 à 4, mes frères, d'emblée, hein, Jacques commence de cette manière. Il n'y va pas par 4 chemins, il n'est pas lénifiant. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve, le test de votre foi, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 12, heureux l'homme qui endure patiemment patiemment la tentation, car après avoir été testé, mis à l'épreuve, après avoir passé un examen de passage, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Si vous allez dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, même dans ces versets 6 et 7, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve, le test, la mise à l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous nous rendons compte que c'est une constante des Écritures. Si vous prenez Romains au chapitre 5, c'est la même chose. Nous avons là une espèce de succession d'enchaînement de pensées extraordinaires, étant donc acquittés, considérés comme justes, déclarés justes par le moyen de la foi. Nous avons la paix par rapport à Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Question de joie. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il est question d'épreuve, les Écritures donnent une tonalité de joie. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, je préfère la fidélité éprouvée. Une fidélité éprouvée, le fruit de la mise à l'épreuve de la foi. Et cette victoire, l'espérance. Un examen subi avec succès. Si vous allez dans Romains 16, 10, comme ça au passage, dans une longue liste de personnages, il est dit « Saluez Apelles qui est éprouvé en Christ, qui est éprouvé en Christ, littéralement, qui a fait ses preuves en Christ. » C'est-à-dire qu'il a connu des moments difficiles. Et il a montré que il était solidement enraciné dans la parole de Dieu. Que sa foi n'était pas quelque chose de superficiel, ce n'était pas du toc. Dans Philippiens 2, 22, il est dit que Timothée a fait ses preuves. Il a fait ses armes. Il a aussi appris un certain nombre de leçons absolument essentielles. Nous n'aimons pas ça. Nous avons lu Hébreux, chapitre 12, les quatre premiers versets, qui nous montre, qui nous parle de celui qui est le prince de la foi. Celui qui est le conducteur dans le domaine de la foi. Celui qui suscite la foi. Et qui est aussi celui qui la mène à la perfection. Mais lui aussi est passé par là. Lui aussi est passé même en tant que Fils de Dieu, lui aussi est passé par des moments extrêmement difficiles. On va s'arrêter là parce qu'il y a un petit problème technique. Nous allons lire à ce sujet dans Hébreux au chapitre 5. Les versets 7 et suivants qui sont intéressants, Hébreux chapitre 5, versets 7 et suivants, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, lorsqu'il était là sur la terre, Seigneur Jésus, dans un corps semblable au nôtre, c'est lui qui a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété, ou on pourrait traduire, à cause de sa soumission humble et respectueuse. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance de la foi, sous-entendu, par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est un texte intéressant qui peut beaucoup nous encourager. Que ce texte qui nous indique que Jésus a été élevé à la perfection par les souffrances et qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Oh, bien sûr, ce texte lu superficiellement pourrait laisser croire que le Seigneur Jésus est passé d'un état de désobéissance à un état d'obéissance, d'un état d'imperfection à un état de perfection. Mais nous savons, à cause d'une multitude de textes des Écritures, que nous ne pouvons pas comprendre le texte de cette manière. Mais nous devons simplement réaliser ce qu'a représenté l'incarnation. Ce champ d'expérience totalement nouveau pour le Christ, venir sur la terre, s'enfermer dans un corps, accepter d'être limité géographiquement, ne plus pouvoir être partout à la fois, être limité dans le temps. Vous imaginez un petit peu ce que cela pouvait vouloir dire pour le Fils de Dieu, que ce tout nouveau champ d'expérience dans lequel il acceptait d'entrer par amour pour nous. Nous ne mesurerons jamais tout ce que cela a signifié pour le Fils, que ce passage en quelque sorte du ciel à la terre. Et bien entendu, dans ce champ d'expérience qui était tout à fait nouveau, que de choses qu'il fallait en quelque sorte apprendre, que de découvertes. Ce n'est pas facile. Et quand Jésus était là au milieu des hommes, il savait que la croix se profilait à l'horizon. Là-haut, tout en haut, d'un long escalier qu'il fallait gravir, marche après marche. Un escalier d'épreuves successives, de tentations successives, d'obéissance successive. Et plus le Seigneur Jésus s'approchait de la croix, plus la marche était rude, plus le niveau d'obéissance auquel il devait s'élever était haut, plus l'ennemi attaquait avec rage en constatant ses défaites successives. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque marche, Jésus l'a franchi dans une obéissance parfaite, dans une soumission humble et respectueuse parfaite, dans une victoire sur la tentation parfaite, dans un triomphe sur l'épreuve parfaite. Chaque fois que le niveau montait d'un cran, Jésus était à nouveau vainqueur du premier coup, obéissant du premier coup, soumis du premier coup. Et il s'est ainsi hissé en quelque sorte d'obéissance parfaite en obéissance parfaite, toujours un petit peu plus haut, jusqu'à l'obéissance suprême, la plus dure, la plus terrible, l'obéissance suprême. C'est là ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait sous-entendre. c'est que dans sa perfection, Jésus-Christ s'est hissé sur la terre dans ce champ nouveau d'expérience d'une obéissance à l'autre, d'obéissance en obéissance d'une manière parfaite jusqu'à l'obéissance suprême de la croix. Il a accepté cet apprentissage-là. De manière à ce que nous puissions être sauvés. Mais aussi de manière à ce que nous puissions, nous, mieux accepter de connaître l'épreuve de la foi, sans laquelle il n'y a pas de croissance. Et c'est ce que dira d'ailleurs aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, par exemple, lorsqu'il est dit que, au verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés ou ceux qui sont éprouvés. Dieu peut me secourir en Jésus-Christ lorsque je suis éprouvé, lorsque je suis tenté, lorsque je passe par ces phases parfois tellement difficiles dans cette croissance de la foi, parce que Jésus-Christ me comprend. Parce que Jésus-Christ est passé, lui, le parfait, le saint, le pur, le juste absolu. Il est passé par ce chemin-là. Et c'était beaucoup plus dur pour lui que pour nous. Parce que lui arrivait tout droit du ciel. Il avait vécu, n'est-ce pas, cette absolue pureté, limpidité, transparence, amour, justice, sainteté dans une relation fantastique avec le Père et le Saint-Esprit. Et voilà qu'il côtoyait pendant des années le péché humain dans toute sa turpitude, dans toute son horreur, et que Satan se déchaînait de la manière la plus absolue contre lui. Alors vous comprenez que ça a été terriblement dur pour lui. Et qu'il peut donc nous comprendre, nous, pécheurs, dans nos combats, dans nos propres luttes avec le péché, il peut nous comprendre, il peut nous secourir, il peut nous aider à avoir la victoire dans cette mise à l'épreuve de notre foi. Et c'est là que s'inscrit simplement cette cinquième caractéristique fondamentale de la foi authentique, persévère jusqu'à l'exaucement. La foi authentique persévère jusqu'à l'exaucement. Dans Hébreux au chapitre 6, toujours dans l'Épître aux Hébreux, vous voyez que nous sommes au cœur de l'Épître aux Hébreux qui est comme un écho continuel de l'histoire d'Abraham au chapitre 6. Il nous est dit au verset 11 à 15, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalant et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, je préfère le terme patience parce qu'il est beaucoup plus exact, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant patiemment attendu, je vous expliquerai pourquoi il faut être plus précis ici, obtint ce qui lui avait été promis. La foi persévère jusqu'à l'exaucement. Abraham a patiemment attendu. Et lui, il a attendu tout d'abord 25 ans, jusqu'à la naissance du fils de la promesse. Mais ces années d'attente ont été des années difficiles, des années de combat contre le doute, l'incrédulité, l'impatience, l'adversité, l'épreuve, les silences de Dieu. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu 13 ans de silence de Dieu dans cette histoire d'Abraham. Entre la fin du chapitre 16 et le début du chapitre 17, il y a 13 ans. 13 ans pendant lesquels nous ne savons absolument rien de la vie d'Abraham. Mais nous avons le sentiment que pendant ces 13 ans, Dieu n'a pas dit grand-chose à Abraham. Pourquoi ? Parce que le chapitre 16, c'est le chapitre de l'impatience de l'incrédulité. Alors il y a eu là une sorte de piétinement spirituel, semble-t-il. Il y a eu là une perturbation très forte dans la vie d'Abraham et au début du chapitre 17. Alors qu'Abraham est maintenant âgé de 99 ans, Dieu se révèle à lui et lui dit, tu sais Abraham, sois intègre, sois entier pour moi, n'essaye plus de tricher, n'essaye plus de recommencer avec les combines d'il y a 13 ou 14 ans en arrière. Tu as vu le résultat? Alors ça a été dur de cela. Dans les versets 12 à 15, vous avez donc un mot qui a été rendu dans certaines versions par persévérance, heureusement dans d'autres par patience. Et je préfère de loin le mot patience, parce que c'est ce mot-là qui figure aussi dans Galates 5 au verset 22, le fruit de l'esprit, le caractère de Christ dans la vie du croyant. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. La macrothumia. Littéralement, l'âme longue. L'âme longue, une âme qui est tout en longueur. L'attente patiente. Sans s'emballer devant la lenteur du déroulement du plan de Dieu. La résistance aux impulsions de la chair, de l'âme, des sentiments. Et ce terme est important. Généralement, le terme macrothumia, patience, longueur d'âme, est lié plus essentiellement à la personne. C'est généralement ce combat intérieur où il faut tenir le coup, mais face à l'envie d'aller plus vite. Où il faut tenir le coup face aussi aux assauts d'autrui, que nous sommes tentés d'agresser parce qu'il se conduit mal, etc., etc. Bien, il nous est dit que Abraham a enduré patiemment. Et parce qu'il a enduré patiemment, il a obtenu ce qui lui avait été promis. Dans le chapitre 10, et au verset 35 et 36, vous avez alors le complément, Hébreux 10, 35 et 36, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. » Alors là, d'accord. D'accord, vous avez besoin de persévérance, parce que ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas le même mot. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez toujours cette question de la promesse, n'est-ce pas? Vous avez besoin de persévérance ici pour obtenir ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc la persévérance pour obtenir, la persévérance de la foi pour obtenir ce qui nous est promis. Et c'est ce terme persévérance qui va être repris au chapitre 12 que nous avons lu au début, courons avec persévérance. Ou un peu plus loin encore, je l'ai fait remarquer, dans la fin du verset 2, il est dit que Jésus-Christ, en échange ou en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, plutôt enduré. C'est le verbe qui fait partie de ce mot, n'est-ce pas? Persévérance, il a enduré la croix. méprisé l'ignominie, s'est assis à droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré, c'est encore le même mot, de la même famille que le mot persévérance, continuellement, ici dans le texte. L'auteur reprend exactement le même langage, celui de la constance, de la ténacité. Le terme grec veut dire se tenir sous, en quelque sorte, tenir le coup sous une situation de pression, sous un fardeau. Et généralement, le terme est utilisé dans les Écritures pour la relation avec les difficultés extérieures. Tenir le coup sous. Être tenace, non pas vivre dans une soumission passive aux circonstances, mais c'est une réponse forte et active. Certains d'entre vous connaissent l'histoire extraordinaire de Marie Durand, cette femme de défaut libre, cette biographie. Nous avons deux ou trois biographies en langue française sur Marie Durand, la célèbre prisonnière de la tour de Constance. Tour de Constance, voilà, c'est le mot grec, là, Constance. La persévérance, n'est-ce pas, qui a été emprisonnée, tenez-vous bien, de 1730 à 1768 dans la tour de Constance, au premier étage. Et j'ai visité je ne sais combien de fois ce premier étage, j'y ai chanté des cantiques. C'est un endroit extraordinaire. Quand on se souvient de l'endurance de cette femme de Dieu dont la famille avait été décimée par l'inquisition de l'époque, les dragonnades, la persécution des authentiques croyants, Marie Durand. Je vous encourage à lire cela, parce que c'est un des plus bons exemples de ce qu'est la persévérance de la foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Et on peut trouver sur la margelle de cette espèce de regard, au premier étage, ce mot gravé dans la pierre en vieux français « résister ». Et on attribue traditionnellement, précisément, cette gravure dans la pierre à Marie Durand. Et un magnifique poème sur la persévérance de la foi est écrit par un de nos chantres et évangélistes du passé, Ruben Sayens, le fondateur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Je vous le lis parce que c'est extraordinaire. Écoutez cela. Non, ce n'est pas ta lourde grille, ni ton mur noir, sombre tour, funèbre bastille que j'aime à voir. Mais ces traits qui par une femme furent sculptés, ce mot qui recouvre un long drame, résister. Quand elle vit la Sébénole aux cheveux blancs, qui soutenait par sa parole les cœurs tremblants, qui relevait par son courage les volontés, portant écrit sur son visage, résister. Quand elle vit la femme austère, la mort, de loin, elle voulut que cette pierre fût son témoin, et pour prévenir après elle, elle l'achetait. Elle écrivit sur la margelle « Résister ». En ce temps-là, dans son Versailles, le roi riait, tandis qu'ici, sous ses murailles, la foi priait. L'un écrivait dans une fête « Persécutée », l'autre écrivait baissant la tête « Résister ». Et c'est toi qui fus la plus forte, vaillante foi. Depuis longtemps, la femme est morte et mort le roi. Et pendant que sceptre et couronne sont emportés, dans la tour, ce vieux mot rayonne, résister, résister. Et vous savez, c'est important dans le développement de notre foi, dans ces moments où notre foi est mise à l'épreuve, où elle passe par le creuset, comme nous allons le voir dans l'histoire d'Abraham, c'est important de pouvoir se remémorer, d'une part, la galerie de ces portraits des héros de la foi dans les Écritures, revenir à Abraham et aux autres, pour réaliser que notre situation n'est pas une situation spéciale. L'ennemi essaye de nous faire croire que nous sommes bien malheureux, que c'est terrible, n'est-ce pas, etc., que nous sommes les seuls sur la terre à passer par là. Mais dans ces moments-là, combien il est bon de connaître quelques histoires aussi du christianisme, l'histoire de l'Église, des siècles passés, de notre temps, pour voir ceux qui ont su, dans des circonstances parfois terriblement difficiles. Et l'époque de Marie Durand n'avait rien à envier à la nôtre, mes amis. C'est sûr qu'il n'y avait pas la télé, c'est sûr qu'il n'y avait pas la porno, etc. Mais vous croyez que c'était marrant d'être persécuté comme les croyants l'étaient à cette époque, ces dragonnades, ces villages entiers qui étaient réduits à sac et à cendres, les cadavres qu'on laissait, tous ces croyants que l'on persécutait de la manière la plus épouvantable, que l'on enfermait comme cela, mes amis. combien ça fait du bien de savoir que d'autres que nous sont passés par ces tests et que lorsqu'ils en sont sortis vivants, quel témoignage ils ont rendu. Le témoignage de Marie Durand a été un bon témoignage, après même qu'elle soit sortie vivante de cette tour. Ainsi, je le répète, la foi persévère, patiente, jusqu'à l'exaucement. Même si le chemin qui y mène est marqué d'un certain nombre de situations d'épreuves. Alors simplement, avant de terminer, une première constatation dans Genèse 12. Cette constatation est au verset 6. Genèse chapitre 12, verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Et les Cananéens étaient alors dans le pays. Ça paraît banal, hein, comme ça. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Il y avait déjà des locataires dans la maison promise. Je crois que c'était agréable pour Abraham de réaliser qu'il y avait du monde et des gens qui n'avaient pas du tout le même comportement que lui. Cela me rappelle lorsque, il y a maintenant un peu plus de 14 ans, nous sommes arrivés à Chevilly, dans notre maison, et que j'ai pu obtenir la clé de notre garage. Je suis allé pour ouvrir notre garage. Je me suis tout d'abord rendu compte qu'on m'avait donné une mauvaise clé. Ensuite, on n'a pas trouvé la bonne. Et puis, il a fallu qu'un serrurier vienne, qu'il fasse sauter la serrure. Et quand le garage a été ouvert, il y avait déjà une voiture dedans. Une belle voiture. Toute neuve. Brillante. Lustrée. Eh bien, croyez-moi, ça ne m'a pas fait plaisir. Ça ne m'a pas fait plaisir parce que je me suis dit immédiatement une chose, mais si jamais le propriétaire de la voiture est en train de regarder par sa fenêtre et que je me suis trompé de garage, qu'est-ce que je vais prendre ? Alors, la chose a été rectifiée parce qu'il y avait quelqu'un qui avait utilisé clandestinement un garage qui ne lui appartenait pas. Ça, c'était la vérité. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les mêmes mœurs que nous. Comme les Cananéens. Les Cananéens étaient dans le pays. Oh, c'est intéressant ce chapitre 12. Vous avez vu le verset premier ? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans la maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, dans le pays. Verset 5, ils partirent pour aller dans le pays. Verset 6, les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 10, il y eut une famine dans le pays. Car la famine était grande dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays. Ah oui, mais entre le premier dans le pays et le troisième dans le pays, quel risque de désillusion pour Abraham. Et bien alors l'autre, au verset 10, il y eut une famine dans le pays. Vous remarquez que la vie nouvelle avec Christ ne nous fait donc pas sortir du monde pour entrer dans un palais doré, au milieu des hommes. C'est un pays à conquérir, peuplé d'étrangers, à la pensée de Dieu qui vont regarder et qui vont réagir. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a le verset 7, n'est-ce pas ? L'Éternel a apparu à Abraham, on a envie de dire dans le pays, hein. Heureusement, il y a ça aussi. Et il lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Ce qui est bien, c'est que Dieu, heureusement, est aussi dans le pays. Les Cananéens sont dans le pays, mais Dieu est aussi dans le pays. Et ça, c'est aussi toute la tension de notre vie en tant que disciples de Jésus-Christ. Parce que d'une part, on se rend compte, les Cananéens sont là, ils sont partout là. Ils sont même tapis au fond de notre propre cœur, les Cananéens. Hein. Il y a notre vieux cœur cananéen Et puis en même temps, ce qui est beau, c'est de savoir que Dieu, Dieu est là. Dieu est là. Fidèle. Viens dans le pays. Nous l'avons vu la dernière fois. Et alors il marche et il commence par la riche et fertile vallée de Sichem. Sichem. Entre deux sommets, l'Ebal et le Garizim. Sichem qui deviendra plus tard Samarie. Plus tard encore Sichar. Ça vous rappelle l'histoire de la femme samaritaine. Aujourd'hui, Naplouse, en plein cœur de ce territoire occupé. Sichem. Sichem, le centre du pays, le jardin de Canaan. Ah, c'était beau. C'était beau. Et puis, il continue, notre ami Abraham, et il va un petit peu plus loin. Il transporte sa tente jusqu'à l'Orient de Bethel, 32 kilomètres au sud de Sichem, une quinzaine au nord de Jérusalem, et il continue. Il continue ses marches en s'avançant vers le Néguev, terre desséchée. Territoire inhospitalier, région sèche et désertique. Et vous ne croyez pas qu'il doit se poser des questions? Seigneur, est-ce que je me serais trompé? Est-ce que ce ne seraient pas des voix que j'ai entendues jadis quand j'étais si bien installé dans mon Ur en Galilée? Seigneur, plus j'avance, plus la terre est inhospitalière. Et puis, vous avez le verset 10, il y eut une famine dans le pays. La sécheresse est totale, les vivres sont épuisés, il y a la lassitude après le long voyage, et en plus la famine est sévère. Quel contraste impressionnant avec le contenu de la promesse. Quel changement de vie par rapport à Ur et à Caron. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tout va de travers? Au niveau de mon boulot, je pensais que tout irait si bien maintenant que je suis à toi. Or maintenant, il y a le chômage. Mais regarde ma situation de famille. Voyez que les promesses de Dieu ne sont pas des gris-gris, des porte-bonheur, des garanties contre les difficultés. Tout de suite, dans l'obéissance de la foi d'Abraham, ça devient difficile. Alors nous allons nous arrêter sur cette note ce soir. Cette note qui pourrait être la cruelle désillusion de ceux qui pensent que lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, la vie devient rose. Comme semblent le dire certains refrains évangéliques, certains livres évangéliques et certains prédicateurs évangéliques. L'histoire du Père des croyants est là pour nous rappeler que la foi authentique nécessite qu'on garde sérieusement les pieds sur la terre. Première épreuve, premier test de la foi dans la vie d'Abraham, la famine. Voilà qui nous intéressera demain soir. Nous essayerons d'en tirer un certain nombre d'enseignements. Nous voulons prier. Seigneur, merci parce que tu ne nous jettes jamais de la poudre aux yeux. Tu ne nous fais jamais des annonces alléchante. Comment contiennent tant de journaux et qui sont en réalité des annonces mensongères. Merci de ce que tu nous préviens aussi que la marche avec toi est quelque chose de fantastique, mais que ce n'est pas un tapis de pétales de rose. Merci de nous rappeler ce soir que tu veux nous voir grandir dans la foi. Merci de savoir que si Satan essaye de déraciner cette plante toute fragile, toute neuve, tu es aussi le Dieu qui veille, tu contrôles, tu ne lâches pas tes enfants. Merci pour tout ce que tu as appris à Abraham au travers de cette situation difficile. Et dans cette chute même de l'incrédulité, Seigneur, aide-nous, nous-mêmes, à tirer toute la substance qui peut nous aider dans notre propre vie de tous les jours. Merci Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de l'endurance, tu es le Dieu de la persévérance. Tu nous le dis dans ta parole. Ce que tu as commencé en nous, tu veux l'amener à son achèvement. Merci de savoir que tu ne nous lâches pas en chemin. Et merci pour tous ceux qui nous ont précédés, qui ont connu de terribles difficultés. Merci pour Marie Durand et pour tant d'autres. Et qui, par ta grâce, ont résisté, ont tenu ferme, ont attendu patiemment. Merci pour l'encouragement que cela représente pour chacun d'entre nous. Bénis notre retour à la maison, bénis notre repos, prépare la journée de demain, et vraiment, Seigneur, fais-nous du bien tout au long de ce week-end. Dans le nom du Seigneur Jésus.